jour dans, pour ce cinquième cours de civilisation latine. Le sujet d'aujourd'hui va être l'amour à Rome. Le cours va se dérouler en deux parties. Pour aujourd'hui, je vais traiter les points 1 et les points 2. Donc, Rome, fille de Vénus, avec beaucoup de mythologie. Ensuite, le deuxième point, l'amour aux temps anciens. Je vais vous montrer que le mariage, au début, est une societas, c'est-à-dire une sorte de contrat qui est à la base de l'amour conjugal. Voilà, je pense que je ne pourrai pas aller plus loin pour aujourd'hui. Et pour le cours du mardi 30 avril, voilà, je terminerai avec l'évolution des mœurs sous la République et l'Empire. Ensuite, je parlerai de la sexualité conjugale et extra-conjugale. Et à la fin, je vous présenterai un poète, Ovide, qu'on appelle le poète de l'amour. C'est un poète qui a écrit des élégies, ce sont des poèmes amoureux, poèmes érotiques. Voilà, donc je présenterai rapidement ce poète. Si j'ai le temps, quelques textes, sinon un peu plus expliqué. Voilà, comme pour les gladiateurs, aujourd'hui je vais encore essayer de chasser quelques idées reçues sur la place de la femme à Rome. Vous allez voir que les légendes de Rome font une large place aux histoires d'amour. Et on pourrait alors un peu penser que nos rudes conquérants du monde faisaient preuve d'une tendresse plus grande qu'ils n'ont eux-mêmes consenti à l'avouer. Donc je commence aujourd'hui, là, mon premier point, avec, je vais vous parler beaucoup de la déesse Vénus, de son importance dans les légendes de la fondation de Rome, et dans son culte aussi, évidemment, à Rome. Donc la première idée, c'est que Rome est la fille de Vénus. La ville de Rome serait fille de Vénus. Parce que l'histoire de la cité est tout entière liée à cette déesse. Alors, je vais vous rappeler quelques informations que je vous ai données à mon premier cours sur les origines de la cité. Bon, j'ai repris le même arbre généalogique que je vous avais présenté en pointant, vous voyez, la déesse Vénus à la racine de l'arbre. Et aussi un autre dieu, le dieu Mars, voilà, qui sont les dieux fondateurs de Rome. Donc je vous réexplique un petit peu ces romans d'amour qui sont à l'origine de la cité. Donc vous vous souvenez, je vais repartir en bas, Romulus, qui fonde Rome, voilà, le dernier. Mais dans son arbre généalogique, il y a du monde. Voilà. Son père, le dieu Mars, Arès chez les Grecs, je vous ai fait la concordance au tableau, d'accord, qui est tombé amoureux de Rhea Silvia, qui avait été faite prêtresse de Vesta par son oncle Amulius, qui avait pris le pouvoir à la place de Numitor, le frère. Bon, bien qu'elle soit une prêtresse de Vesta, Mars est tombé amoureux d'elle, est allé la visiter et sont nés les jumeaux. Voilà, bon, ça c'est ce que je vous ai expliqué dans mon premier cours. Donc Romulus, déjà né de la passion d'un dieu et d'une mortelle. Je remonte un peu plus haut, Aîné. Alors Aîné, c'est celui qui a fondé, qui est arrivé dans le Latium, qui est parti de Troie, qui était en flammes et qui a fondé la première ville, l'Avignon, dans le Latium. Regardez de qui Aîné est le fils, rien que ça, de Vénus, déesse de l'amour. Donc le premier roman d'amour, en fait, il commence en haut de mon arbre, par la déesse Vénus même. Voilà. Alors, que va-t-il arriver à Vénus? Je vous ai fait un schéma des histoires d'amour. Donc vous allez partir du cœur. Voilà, passez par là, 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 et Romulus, ça va? Alors je remonte, c'était un peu mon arbre là, mais là c'est un simplifié avec les histoires d'amour. dont je pars de la première histoire d'amour des temps jadis. Donc vous allez retrouver Vénus, qui est la mère d'Énée, fondateur du peuple latin. Et pour faire Énée, elle a trouvé un très beau jeune homme, parce que Vénus, c'est la déesse de l'amour. Elle est mariée contre son gré au dieu le plus laid de la mythologie. Elle est mariée à Héphaïstos Vulcain. Héphaïstos en grec, Vulcain chez les Romains. Donc c'est un dieu boiteux, c'est le dieu forgeron, si vous vous souvenez bien. Voilà. Bon, mais elle est mariée avec lui, mais les aventures extra-conjugales, elle connaît. Donc là, elle va tomber amoureuse d'un jeune berger, Anchise, le père d'Énée. Donc Anchise est un berger qui garde ses troupeaux à Troie, sur le mont Ida, à côté de Troie. Alors c'est un berger certes, mais il est quand même le neveu du roi de Troie. Ce n'est pas un simple berger, il faut que Vénus tombe amoureuse de quelqu'un qui n'est pas à sa hauteur, mais quand même. Voilà, c'est le neveu du roi Laomédon, c'est avant Priam, avant la guerre de Troie. Bon, plutôt mythologique bien sûr. Alors là, le bas-relief, qui est magnifique là, il vous montre la rencontre de Vénus avec Anchise. Donc Vénus, elle est reconnaissable, vous allez voir dans la statuaire que je vous présenterai dans mon cours, toujours au manteau là, drapé. Souvent, c'est un manteau qui lui sert de drap de bain quand elle sort de l'eau. Voilà, donc elle est reconnaissable au manteau. Elle porte la stola, la robe de la femme romaine traditionnelle. Là, elle n'est pas dénudée comme dans certaines statues. Sur ses genoux, elle a son fils, le petit Cupidon. On voit les ailes là. Alors Cupidon, c'est le fils qu'elle a eu avec un de ses amants, le dieu Arès Mars. Suivez mon schéma là. Dont elle est amoureuse également. Et Cupidon, bon, tout le monde le sait, c'est Eros en grec. Et c'est le petit dieu qu'elle envoie pour nous décocher une flèche dans le cœur et pour nous rendre amoureux. Le seul problème qui se pose, c'est que ce dieu a aussi des flèches contraires. C'est-à-dire, il y a la flèche qui apporte l'amour et puis la flèche qui refuse l'amour. Donc c'est pour ça que quelquefois ça ne marche pas. C'est pas réciproque. Voilà. Donc elle tient le petit Cupidon sur ses genoux, voilà. Et ensuite, à la gauche, c'est le jeune berger Anchise, voilà, dont elle va s'amouracher. Alors pourquoi il va y avoir... Ce bas-relief va représenter aussi, de manière pudique, l'union de Vénus et d'Anchise. Regardez en haut. Ce visage, c'est la lune, c'est l'aînée. Parce que chez les Romains, on a des relations intimes seulement la nuit dans l'obscurité. Dans le cadre de l'amour conjugal. Donc, dans ce bas-relief, curieusement, vous avez le visage de la lune là. Donc, ça signifie que Vénus et Anchise vont passer une nuit d'amour. Le lendemain, nous dit la légende, elle lui annonce qu'elle va bientôt donner naissance à un fils. Donc ce fils, ce sera Aîné, qui continue lui aussi la légende de la construction de Rome, de la fondation de Rome. Et elle demande à Anchise de ne pas révéler qu'il a eu une nuit d'amour avec elle. Pourquoi ? Parce que Zeus veille sur les dieux et les déesses, et comme Vénus est mariée à Héphaïstos Vulcain, ça poserait problème. Bon. Notre mortel Anchise ne va pas tenir sa langue longtemps. Un soir où il a banqueté, il va révéler, et Zeus, pour se venger, va le faire boiteux lui aussi. Voilà, donc première histoire d'amour, tout en haut de l'arbre. Vénus qui tombe amoureuse d'un mortel et qui donne naissance à Énée. Hein, dans notre arbre généalogique, je vous rappelle, est né, c'est lui qui part de Troie et qui va fonder le peuple latin. Et Romulus sera un de ses descendants. Voilà pour l'enchaînement de l'histoire. Je continue avec les histoires d'amour. Dans deuxième histoire, qui est un petit peu moins connue peut-être, c'est l'histoire qu'on appelle l'histoire du jugement de Paris ou bien l'histoire de la pomme d'or, où Vénus va encore être au centre de cette histoire, une histoire d'amour encore. Bon là, elle sera juste l'instigatrice de l'histoire. Donc deuxième histoire d'amour, cette histoire d'amour va être à l'origine de la guerre de Troie. Bon, je vous la raconte un petit peu. Sur l'Olympe, parmi les dieux et les déesses, on va célébrer un mariage, les noces de Thétis et de Pélée. Tous les dieux et les déesses sont invités, sauf une déesse qui n'est pas très sympathique, la Discordia chez les Romains, elle s'appelle Eris chez les Grecs. Donc cette déesse n'est pas invitée, elle est exclue du mariage. Bon, évidemment, elle va vouloir se venger. Et c'est l'histoire de la pomme d'or. Elle va se faufiler dans le mariage et jeter une pomme d'or avec une inscription dessus. C'est à la plus belle des déesses, inscrit sur la pomme d'or. Donc les déesses ramassent la pomme et vont se disputer laquelle va être la plus belle des déesses de l'Olympe. Voilà, trois déesses sont en lice dans ce concours. Donc Aphrodite, Vénus, chez les Romains, là je vous ai mis la collade, Héra Junon et Athéna Minerve. Bon, Aphrodite en grec, je vous ai mis la racine du mot Aphros, en grec c'est l'écume. Dans la mythologie, Aphrodite, elle surgit de l'écume de la mer. Rappelez-vous le tableau de Botticelli sur la conque Marie. Voilà. Et Vénus, j'ai cherché la racine, une ancienne racine Wen, qui viendrait, alors là, point d'interrogation, et du verbe vincio, qui signifie lier, enchaîner. Alors pour les Romains, Vénus, elle lie le feu mâle à l'eau femelle, pour assurer une descendance. Voilà. C'est pour ça que sa racine viendrait du verbe lier, bon, avec un point d'interrogation. Bon, je reviens à mon histoire des déesses, de la dispute entre nos trois déesses. Bon, Zeus n'est pas content, les déesses gâchent le mariage, elles se disputent, il faut trouver une solution. Donc Zeus n'arrive pas à les départager, surtout on ne veut pas se mêler de ça. Donc il a une idée, il envoie son fils, le messager Hermès, chercher à Troie, toujours, un très beau jeune homme, Paris. Voilà. C'est le fils du roi de Troie, Priam, c'est le frère d'Hector dans la guerre de Troie. Donc il envoie chercher Paris, et Paris doit trancher. Voilà, il doit dire quelle est la plus belle des déesses parmi les trois. Bon, les déesses vont un peu tricher. Elles vont chacune promettre quelque chose à Paris. Donc, Héra Junon va lui proposer la souveraineté sur tous les hommes. Athéna Minerve va lui offrir la victoire à la guerre. Et Vénus Aphrodite, regardez, va lui offrir... Oh, je suis désolée. Vénus Aphrodite va lui offrir l'amour de la plus belle des femmes de Grèce, Hélène. Hélène, c'est la femme du roi de Sparte, Ménélas. Donc Paris, le jeune prince, va trancher. Et à qui il va céder, bien sûr, c'est à Vénus Aphrodite, puisqu'il va choisir l'amour de la plus belle des femmes de Grèce. Bon, dans l'histoire de la guerre de Troie, Paris, avec son frère Hector, vont en ambassade à Sparte. Et c'est là où ils rencontrent Hélène, puisqu'elle est la femme du roi de Sparte. et Paris enlève Hélène. Voilà. Et ce serait la cause mythologique de la guerre de Troie, l'enlèvement d'Hélène par le fils du roi de Troie, Paris. Voilà. Donc Vénus, là, encore à l'origine des histoires d'amour qui vont contribuer à la fondation de Rome. Donc je vous l'ai raconté aussi lors de mon premier cours. Énée habite Troie, il est à Troie puisqu'il est le fils d'Anchise qui est lui-même à Troie. Excusez-moi, un trouble. Et lors de la guerre de Troie, quand Troie est en flammes et que les Grecs ont pillé Troie, bien Énée, il va quitter sa ville sur ordre de sa mère Vénus qui lui apparaît et qui lui dit « Il faut que tu ailles fonder un nouveau royaume, une nouvelle race d'hommes puisque ta cité Troie a été pillée et détruite par les Grecs. Donc embarque-toi et vogue jusqu'à ce que tu rencontres une terre promise en quelque sorte. » Voilà. Donc sur l'ordre de Vénus, Énée quitte Troie avec pour mission d'aller fonder un nouvel empire. Donc encore une histoire d'amour, hein, je répète, première histoire d'amour Vénus Anchise, deuxième histoire d'amour où Vénus est l'instigatrice, Paris qui tombe amoureux d'Hélène et la guerre de Troie, et Énée qui va quitter Troie pour aller nous fonder l'empire romain. Voilà. Je voulais faire une petite digression là, à ce moment du cours, sur la statuaire de Vénus, parce que c'est une statue qui a été énormément représentée, que ce soit en Grèce puis à Rome. Voilà. On en a tout un panel de statues de Vénus, donc je voulais faire une petite digression de l'histoire de l'art là. Puis je reprendrai mon cours à l'arrivée d'Énée dans le Latium. Alors, ces statues de Vénus, voilà, je vous en ai mis deux là, mais après je vais en commenter quelques-unes de plus. Ce qu'on a, nous, actuellement, ce sont essentiellement des copies romaines de statues plus anciennes, de statues grecques, d'accord ? La statuaire grecque, le siècle d'apogée de la statuaire grecque, c'est 4e avant Jésus-Christ, avec deux sculpteurs dont on connaît les noms, Praxitèle et Callimaque, en Grèce. Mais on n'a pas de statut de Praxitèle et de Callimaque. On en entend parler dans la littérature. Il y a des copies romaines, évidemment, qu'on a encore, qui sont en très bon état. Mais là, ça remonte à plus ancien, donc... Les statues que je vais vous présenter, elles sont inspirées de ces sculpteurs grecs. Voilà, je répète, Praxitèle et Callimaque. Donc les statues de Vénus, elles ont toutes une particularité. On pourrait y mettre une épithète. Je vous les ai mis là. Alors, une statue qu'on retrouve le plus souvent, et regardez ce qu'elles tiennent dans la main. Ce n'est pas une balle, c'est la pomme. Pensez à l'histoire d'amour que je viens de vous raconter. D'accord ? La plus belle des déesses. Voilà. Et on ne le remarque pas quelquefois, celle d'à côté, c'est plus discret, là. Mais elle est là, la pomme aussi. Vous voyez ? Donc, cette statue à la pomme, c'est la statue de la Vénus Victrix. Bon, j'ai mis quelques mots latins. Victrix. Victorieuse. Pourquoi elle est victorieuse ? Ben c'est simple, c'est elle qui a remporté la dispute là, de la pomme d'or. Voilà. Et cette Vénus Victrix, elle est très ancienne parce que les premiers temples à Rome de Vénus, ce sont des temples dédiés à la Vénus Victrix. Parce que les Romains, en pensant qu'elle est victorieuse, elle va vous apporter la victoire. Donc, Pompée, par exemple, l'adversaire de César, a fait construire un temple dans Rome à ses frais de la Vénus Victrix pour vaincre César. Il n'a pas remporté la victoire. Voilà. Donc, c'est celle qui est liée, celle qui est le plus souvent représentée et qui est liée à cette histoire de la pomme d'or. Deuxième Vénus, la Vénus Génitrix. Bon, c'est facile, là, le mot, vous reconnaissez, génitrice. Donc, la statue... Ah oui, j'ai oublié de dire que celle-ci, elle a été découverte en Arles, pas loin du théâtre romain d'Arles. Donc, elle était probablement dans le théâtre romain. La deuxième, elle a été découverte à Fréjus, dans le sud aussi de la France, mais les deux sont au musée du Louvre. D'accord. Celle d'Arles n'est pas au musée d'Arles. Voilà, une copie de grec également. Alors, la Vénus Génitrix, elle est un peu plus habillée que l'autre en général. Elle a la robe de la femme romaine, bon, avec le sein dénudé quand même, il faut bien montrer que c'est Vénus. Le manteau à l'arrière, toujours, qui la recouvre. Là, bon, elle tient la pomme dans la main, mais c'est quand même un type de la Vénus Génitrix, plus que la Vénus Victrix, celle-ci. Hein. Mais bon, la pomme est là. Alors, Jules César, je vais vous raconter la petite histoire quand même, parce que là, elle est assez sympa. Jules César, il appartient à la gens Iulia. Je vous l'avais dit dans mon cours sur la dynastie julio-claudienne. La gens, c'est la grande famille, hein, les ancêtres, etc. Donc, il appartient à la gens Iulia, une vieille famille de la noblesse romaine. Mais il prétendait que dans son arbre généalogique, il y avait Vénus. Alors pourquoi? Vous allez voir. Regardez le fils d'aîné dont je vous avais raconté l'histoire la dernière fois. Regardez son nom. Iule. En sachant qu'en latin, le I et le J sont la même, vous voyez, enfin, la même lettre. Voilà, donc juste ce petit détail qui faisait que Jules César a toujours prétendu, dans ses discours, même on l'a retrouvé, qu'il descendait grâce à Iule, à son ancêtre Iule, de Vénus, tout simplement. Et le temple qui se trouve sur le forum, là actuellement il y a trois colonnes qui restent, c'est le temple que César avait, sur le forum romain, que César avait dédié à la Vénus Génitrix, en l'honneur de sa famille. Je reviens à mes statues. Voilà. Je vous présente là, dans cette page, trois autres types de statues de Vénus. Bon, celle qu'on a à gauche, la Vénus de Milo, là c'est l'original grec. Voilà. On a vraiment une statue d'un sculpteur grec. Alors, pas ni de Praxitèle ni de Callimaque, bien sûr, puisque vous avez vu le siècle que je vous ai mis. C'est juste le deuxième avant Jésus-Christ, mais elle est quand même très bien conservée. Donc, la Vénus de Milo, elle a été trouvée dans une petite île grecque, Milos, par un paysan qui labourait son champ. Voilà. Et bon, comme souvent dans la statuaire, il manque les bras. Donc on a fait diverses interprétations. Là, ça, je vous en ai mis une, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y a plusieurs possibilités. Dans celle que je vous ai mise, elle a la pomme. Voilà. Elle a la pomme, mais il y a aussi d'autres interprétations où elle tiendrait le bouclier d'Arès, son amant, là, dans la main, et le bouclier reflèterait comme un miroir son image. Bon, ce ne sont que des interprétations parce qu'on n'a pas retrouvé les bras. Voilà, mais la Vénus de Milo, bon, une œuvre magnifique. Toujours le manteau, toujours lié à l'eau, c'est une sortie du bain, certainement, pour appeler la déesse qui naît de l'écume de la mer. Une autre Vénus, alors là, on va aller en Italie, deux copies romaines, celle-ci au musée du Capitole à Rome et celle-ci à Naples, au musée de Naples archéologique. Voilà, les copies romaines sont du 2e avant Jésus-Christ. Celle-ci, on l'appelle la Vénus Pudica. Pudica. Alors, pudique, jusqu'à quel point? Bon, vous voyez la main, elle ne cache pas grand-chose. D'accord, de la poitrine. Certains historiens disent qu'en fait, elle ne cache pas, elle pointe juste les seins et le sexe, parce que Vénus, c'est la déesse de la fécondité, si je vous rappelle. D'accord. Bon, il y a divers courants, soit la pudica, soit la non-pudica. Voilà. Alors, celle-ci, qu'on rencontre assez souvent aussi sous plusieurs formes, celle-ci, on l'appelle la Vénus Callipyge. Je vous ai mis un peu d'étymologie. Alors, Kali, bon, kalos en grec, c'est la beau. Et pige, ce sont les fesses. D'accord ? Pugier. Voilà. Donc, toujours un rapport avec l'eau, avec cette Vénus Callipyge, parce que ce ne sont pas ses fesses qu'elle regarde, c'est le reflet de ses fesses dans l'eau. D'accord ? C'est pour ça qu'elle est tournée. Voilà. Donc, elle se mire dans l'eau, là, et toujours l'histoire de l'eau avec cette déesse. Donc, celle-ci se trouve au musée archéologique de Naples, où il y a vraiment des œuvres merveilleuses. Et la dernière Vénus que je vais vous présenter, hein, c'est ma préférée. Celle-ci, elle est très originale, vraiment très, très originale. Celle-ci, elle se trouve au musée archéologique de Naples également. Et elle a été déterrée, elle a été excavée du site de Pompéi. Dans Pompéi, il y a une maison qui s'appelle la maison de la Vénus au bikini d'or. Mais la Vénus, évidemment, elle n'est plus dans la maison, elle est au musée archéologique. Alors, au musée archéologique de Naples, si vous allez un jour le visiter, il vous faut aller au premier étage. Parce qu'il y a ce que les Italiens appellent le cabinet secret. C'est une pièce dédiée à des œuvres érotiques. Voilà. Et donc cette Vénus s'y trouve. Or il y a les fresques de Pompéi, les fresques de la maison des prostituées qui sont reproduites dans cette pièce, dans ce cabinet secret. Il y a des statues de Priape aussi. Divers objets qui ont... une connotation érotique. Alors, moi, j'ai amené des élèves, mais il y a très longtemps que je n'ai pas amené d'élèves. Je me rappelle qu'il fallait montrer la carte d'identité. Il fallait avoir 14 ans à l'époque. Je crois que maintenant, ça ne les choquerait pas beaucoup. Donc, je ne sais pas, ça fait quand même quelques années que je n'ai pas amené d'élèves de moins de 14 ans à Pompéi. Donc là, je ne peux pas vous dire... Voilà, pourquoi cette Vénus est dans cette pièce, je vais vous l'expliquer. Il y a plusieurs raisons. Bon, la rareté du marbre particulièrement blanc, les décorations aussi fragiles, dorées de ses sous-vêtements. Et puis, bon, ben, elle a sa place quand même, parce que si vous regardez bien le petit Priape là, il a une particularité, bien placée, d'accord, il a le sexe en érection. Voilà. C'est pour ça que cette statue se trouve dans le cabinet secret de Naples, du musée de Naples. Alors, qui est Priape? Priape, c'est un fils de Vénus, comme Eros, Cupidon. C'est un fils qu'elle a eu avec Dionysos, le dieu de la fête. Vous savez, Bacchus, Dionysos. Voilà. Et bon, Priape, c'est le symbole là, de la sexualité chez les Romains. Donc là, vous avez Vénus avec son fils Priape. Et bon, on ne le voit pas très bien là, mais il y a aussi le petit Eros qui est assis, les deux dos, et sa chevelure, son dos, et il soutient la sandale de sa mère. Voilà. Alors cette œuvre, bon, elle est Elle est magnifique pour plusieurs raisons. Bon, moi, ceux qui sont venus au voyage de Jean, est-ce que vous l'avez vu dans le musée de l'Acropole?
Oui.
C'est quand on a visité le musée de l'Acropole, cette statue, elle était en visite dans le musée de l'Acropole. Elle avait été prêtée par le musée de Naples et elle était dans le hall d'entrée, mais au fond, un peu cachée, j'ai trouvé. Alors, ce n'est pas une statue qui est très, très grande. Je crois qu'elle fait environ 70 cm de haut. Elle était sous vitrine. Voilà. Mais ça m'a rappelé, là, à ce moment-là, que je l'avais déjà vue plusieurs fois dans le musée de Naples et que le musée de Naples l'avait prêtée à la Grèce. Donc, bon, ce qui est admirable, bon, c'est la blancheur du marbre hein, qui montre une peau de Vénus blanche comme la neige. La blancheur du marbre, elle est d'autant plus étincelante qu'elle contraste avec ce qui est rare dans la statuaire, des sous-vêtements en quelque sorte de Vénus. Hein. Voilà, puis bon, ça nous donne une idée des sous-vêtements de la femme romaine, parce qu'il n'y a pas de traité de lingerie hein, à l'époque. Donc on a les fresques d'une villa qui montrent des joueuses de bal hein, avec un bandeau. Elles sont en maillot de bain, en forme d'un bandeau qui tient lieu de soutien-gorge, ainsi qu'un bas de maillot, mais on n'a pas grand-chose. Voilà. Et pour cette statue, ce qui est assez étonnant aussi, ce sont les bretelles du soutien-gorge. Ce n'est pas un simple bandeau. Là, vraiment, c'est une statue avec une bretelle double. Voilà, c'est ce qui est assez rarement représenté. Alors bon, ce qui apporte une impression de sensualité, c'est que le soutien-gorge, il est constitué de petits carrés avec des motifs à l'intérieur en forme de croix qui, bien sûr, laisse transparaître la blancheur de la peau. Donc ce qui accentue quand même la sensualité de la statue, là, qui est déjà assez forte. Elle a un collier d'or avec des rayons. Des sortes de brassards, là, des bracelets de bras et un bracelet de poignet. Bon, ça, chez les Romaines, ça se retrouve. Le soutien-gorge est lié, le bas du soutien-gorge, là, du diaphragme de la Vénus, est relié à une sorte de bijou qui couvre le nombril. Voilà. Puis vous avez une chaîne de losange qui est reliée à la lanière du bas du maillot. Et là, c'est effacé par contre. C'est à demi effacé, mais c'était présent. Voilà. Alors, cette statue avait aussi des couleurs. Parce que le petit Priape, il a des cheveux orange. On retrouve un peu d'orange dans les cheveux de la Vénus. Les yeux étaient bleu irisé, certainement, parce qu'il y a aussi quelques touches de bleu. Les lèvres rouges, voilà, et dans la statue était également colorée, ce à quoi on pense toujours Rome, le marbre blanc, etc. Mais en fait, il y avait des couleurs. Voilà. Et si je descends un peu, elle a une sandale avec des lacets autour de la cheville qui sont assez effacés, toujours dorés. Voilà, et le petit Eros qui lui soutient le pied parce qu'elle est en train de délier sa sandale. C'est un type de statuaire qu'on retrouve. Cette statue, elle a été copiée. Il y en a un bronze, il y a une statue en terre cuite aussi qui a été retrouvée de notre Vénus à la sandale, là, déliant la sandale. C'est un des thèmes, là, c'est le dernier que je vous ai mis. Donc voilà pour ma petite digression. Sur la statuaire. Alors je vais rattacher mes idées à ce que je vous ai montré précédemment pour continuer sur le mariage au temps ancien de Rome. Donc je reprends mon histoire d'amour, mes histoires d'amour. Voilà, si j'y arrive, c'est bon. Donc j'en suis là, Énée qui quitte Troie. Quand Énée quitte Troie, c'est Virgile qui nous le raconte dans l'Énéide, il va prendre avec lui deux personnes. Il va prendre son vieux père, Anchise, qui est boiteux, je vous rappelle. Dans les mosaïques, il est, né et représenté en portant son père sur ses épaules. Voilà. Et à sa main, il aura son fils, le petit Yule Ascagne, qui va fonder Albe la Longue. Qu'il ne prend pas, évidemment. Il ne prend pas la mère d'Ascagne, Yule, qui reste sur le rivage. Il ne prend pas Créuse. Pourquoi ? Ben, parce que, voilà, il faut sauver son père, son ancêtre et son descendant. Ensuite, peu importe. Voilà. Aîné va arriver dans le Latium, mais entre-temps, il s'arrête à Carthage, où il y a une nouvelle histoire d'amour, de passion, là, très forte, entre Aîné et la reine de Carthage, Didon. Mais là aussi, il est rappelé à l'ordre par sa mère Vénus. Tu ne vas pas t'attarder trop longtemps à ta passion amoureuse avec Didon, car tu as une mission. Et Didon ne fait pas partie de ce qu'on pourrait appeler l'amour conjugal, en quelque sorte. Donc l'histoire d'amour, de passion avec Didon, ben voilà, il faut la laisser. Didon se suicide au départ d'Aîné, je vous rappelle, tout le monde connaît cette grande histoire. Et Aîné va arriver dans le Latium, la province du Latium, où il y a le roi Latinus. Et il va épouser évidemment la fille du roi Latinus, qui s'appelle Lavinia. Et il va créer la ville qui va se trouver à côté de la future Rome, Lavinium, de par sa femme, du nom de sa femme, Lavinia. Alors, ce que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est qu'en fait, le mariage avec Lavinia, vous voyez, c'est une union politique. C'est et Lavinia, elle a déjà un fiancé, hein, ça ne va pas très bien se passer. Mais bon, le père de Lavinia va la marier à Aîné. Pourquoi ? Mais voilà, c'est ce que les Romains, ils appellent une societas. C'est une sorte de contrat, mais ce n'est pas un contrat écrit, c'est un contrat tacite qui va unir deux alliés, deux socii, ça signifie allié en latin. Voilà, et c'est pour ça que je rattache cette histoire d'Aîné, vous voyez, à la mentalité romaine des premiers temps quand il s'agit de l'amour conjugal. Alors les Romains, ils n'aiment pas trop, enfin ils aiment Vénus, mais ils en ont peur. Ils préfèrent se dire qu'ils sont fils d'Aîné, c'est plus rassurant que fils de Vénus. Vénus, c'est la passion, voilà, c'est dangereux. Voilà, donc j'en arrive à mon idée de mariage des premiers temps. Je vais vous montrer le petit lexique de mots latins que j'ai préparé pour essayer de vous faire entrer dans cette mentalité-là de l'amour conjugal des premiers temps. Donc voilà, c'est une societas, le mariage, c'est une alliance entre des socii, des alliés. Alors il ne faut pas considérer que la femme était, bon, elle avait une place, certes, mais il faut les considérer à égalité, mais pas sur tous les plans, pas sur le plan juridique, le plan politique, mais dans le mariage, oui, ce seraient des sortes d'alliés. Et Aîné, il répond à ce mot-là que je viens de vous mettre en premier, à la pietas. La pietas, rien à voir avec la piété religieuse. C'est l'affection filiale, c'est le devoir vis-à-vis de sa lignée. Et aussi, c'est le devoir vis-à-vis de la cité. Il faut reproduire la race de citoyens. Donc, un contrat au début avec cette histoire d'Aîné. D'ailleurs, je vais rajouter autre chose. Si vous vous souvenez bien, les premiers Romains autour de Romulus vont enlever les femmes du peuple d'à côté, les Sabines. Je vous l'avais raconté. Et il y a une guerre entre eux. Et les Sabines, ce sont elles qui font cesser la guerre. Et elles vont établir, elles aussi, une sorte de contrat avec leurs nouveaux époux romains. Elles vont dire, si vous voulez qu'on qu'on reste avec vous, d'accord, on va être vos épouses, mais les tâches serviles, on va les donner aux esclaves. Donc, à partir de là, la femme romaine ne pénètre jamais dans la cuisine, ne nettoie jamais la maison, elle a des esclaves. Alors, vous allez me dire, que fait-elle? Voilà, deux tâches. Elle a la tâche d'élever les enfants et de filer la laine. Voilà. Dans les premiers temps. Donc, depuis, mesdames, depuis l'histoire des Sabines, on n'a pas à faire des tâches serviles à la maison. Bon, ça a bien changé. Voilà. Donc, j'en reviens à mon contrat, ma societas, là, entre époux. Donc, je passe à mon deuxième point, l'amour aux temps anciens, pour vous expliquer un peu plus ce qu'est le mariage à l'époque de l'ancienne Rome. Alors, je vais commencer par une phrase que j'ai relevée qui m'a bien plu. C'est un homme politique, un censeur, qui dit devant l'assemblée des citoyens la phrase suivante. Écoutez bien. Le mariage est une source de tracas. Nous le savons tous. Il n'en faut pas moins se marier. Et il ajoute par civisme. Voilà. Donc c'est l'idée que je viens de vous présenter. Le mariage, il a deux buts. Continuer la lignée familiale, mais aussi perpétuer la caste des citoyens. Voilà. Donc, on ne se marie pas pendant quelques siècles, là. On ne va pas se marier vraiment par passion. On va se marier mais parce que ça arrange deux familles, en quelque sorte. Voilà. Et c'est ce que j'appelle la societas. Alors, quelques mots là, par rapport au vocabulaire latin là, qui montre bien ce qu'est le mariage. Regardez, matrimonium, sur la racine de mater. D'accord ? Épouser une femme, c'est l'appeler à devenir mère, dans un premier temps. Pour une femme, le mot se marier en latin, c'est le verbe nubere, en parlant d'une femme. Donc, nubere, à l'origine, c'est porter le voile. D'accord ? Parce que lors de la petite cérémonie de mariage, la fiancée a un voile. Elle porte une robe normale, une robe de femme romaine, mais elle a un voile couleur de feu, orangé. Voilà. Donc, se marier pour une femme, on emploie le verbe nubere. Ça a donné notre mot nubile. D'accord ? Une fille qui est nubile, c'est qui est prête à se marier. Par contre, chez les messieurs, se marier se dit en plusieurs mots. Uxorem indumum ducere. En parlant d'un homme, ducere conduire, uxorem une femme, indomum dans sa maison. Voilà. Et le mot femme, le mot épouse en latin, uxor, qui vient d'une vieille racine, en gros du verbe augeo qui signifie augmenter. La racine ux. Qui vient de Hugues et de Aog, vous voyez. Pourquoi ? Parce que ben, l'épouse, elle ne fait qu'augmenter le nombre de personnes qui est dans la maisonnée du mari. Voilà. Bon, il faudra attendre quelques siècles quand même où va se créer une véritable cellule familiale. Vers le, je vais dire, le 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, là, le couple romain qui se marie aura sa maison, va fonder son foyer, enfin, sa cellule familiale. Hors de la cellule de la famille du mari. D'accord ? Mais ce sera un peu long. Qu'est-ce que je vous ai mis de plus dans le vocabulaire ? La fiancée, parce qu'il y a des fiançailles qui sont quelquefois très précoces, surtout dans les alliances politiques. On peut fiancer, pas un bébé, mais presque, d'accord ? Entre deux familles. Donc la fiancée, c'est la sponsa, qui vient du participe passé du verbe spondeo, qui signifie signer un contrat. Voilà. Donc elle est promise par un contrat. Voilà. Il me manque, je vous l'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais je le mets quand même là, la phrase traditionnelle qui est prononcée par la fiancée le jour de la cérémonie des noces, la phrase qui est très, très connue, Ubi Gaius, Ibi Gaia. Alors elle signifie là où tu seras Gaius, je serai Gaia. Mais Encore une fois, ne voyez pas quelque chose de dégradant, de la soumission. Ce sont deux alliés, le mari est Gaius, la femme est Gaïa. Bon, j'en arrive vraiment aux formes de mariage. Je voulais vous expliquer. Alors là, il faut que je remonte. Voilà. Alors, les trois formes de mariage, c'est vraiment au début, à la royauté et au début de la République. Hein, parce qu'après, ça va se relâcher. Ce sera... Les deux premières formes vont disparaître. La plus ancienne forme, c'est la première, la confarreatio et aussi la coemptio. Alors, ces deux formes, je vous ai mis une flèche. En latin, elles sont dites cum manu. Ça signifie avec la main du mari. Et la dernière forme, elle est sans la main du mari. Ça a de l'importance là. D'accord ? Donc là, les deux plus anciennes formes, ces deux formes, elles se retrouvent surtout dans la nobilitas, dans la noblesse romaine. Tout le monde ne se marie pas à Rome comme la noblesse romaine, loin de là. Je vous l'expliquerai. Bon, mais on en revient à notre gens Iulia, là, par exemple, à nos patriciens de la ville de Rome. La plus ancienne forme du mariage, c'est la confarreatio. Alors, dans farreatio, il y a far, le gâteau. Donc, c'est le partage d'un gâteau de blé ancien, un gâteau d'épeautre. Vous voyez, partage en deux, hein, ubi Gaius, ibi Gaia, là où tu seras Gaius, je serai Gaia. Un morceau pour chacun. Voilà. Et ce mariage, c'était un mariage qu'on pourrait qualifier de religieux. Bon, c'est pas du tout le mariage que nous avons devant un curé, etc. Pas du tout. Mais c'était quand même... C'était la noblesse romaine, donc il y avait le grand pontife, le chef de la religion de Rome, et un prêtre de Jupiter qui assistait. Voilà. Mais il était réservé à la classe patricienne. Un mariage plus simple, mais quand même avec la main du mari, c'est la coemptio. Bon, c'est sûr que le mot n'est pas très joli, parce que l'emptio, c'est l'achat, la vente. Voilà. Bon, évidemment, c'est la vente de la fiancée. Donc il y avait une petite cérémonie de mariage là, et il y avait une pièce d'or qui était remise par la famille du mari à la famille de l'épouse, de la fiancée, devant témoins. Voilà. Donc là aussi c'était réservé à la classe patricienne. Parce que l'institution du mariage, c'est... Un paradoxe à nos yeux, l'institution du mariage romain, c'est un acte de la vie totalement privé. Il n'y a rien d'écrit, ce n'est pas un acte écrit. On ne va pas devant le maire, on ne va pas devant le curé, rien n'est écrit. Il n'existe pas de contrat de mariage, il y a juste un contrat de dot, puisque l'épousé apporte une dot à la famille du mari. Donc, acte privé. Non écrit. C'est un acte informel. Il n'y a pas de geste symbolique entre les deux, l'époux et sa femme, qui montrerait qu'il y a quelque chose. Alors, souvent, dans les bas-reliefs, on voit un homme et une femme qui se tiennent la main comme ça, là, chacun. Mais en fait, dans ces bas-reliefs, ce n'est pas uniquement à la cérémonie du mariage qui se tiennent la main. Il y a des bas-reliefs, des stèles funéraires. Donc, même se donner, il n'y a même pas à se tenir la main, ce n'est pas représentatif, ce n'est pas un geste symbolique en rigueur dans le mariage. Il y a la bague de la fiancée, une bague de fer que l'époux remet à la fiancée. Et qu'elle met à l'annulaire gauche, puisque traditionnellement, on dit toujours que l'annulaire gauche est relié au cœur, etc. Bon. Le marié n'a pas de bague, par contre, il n'y a pas d'échange. Voilà. Donc, c'est un acte informel. Alors, vous allez me dire, bon, quand il y a un litige après le mariage, eh bien, on en appelle aux témoins. On en appelle aux témoins. Voilà. Parce que rien n'est noté. Il n'y a pas de papier juridique qui prouve que cet homme et cette femme sont mariés. Donc c'est juste une cérémonie privée à caractère nuptial. Voilà. Et c'est ce qui est assez paradoxal. Et c'est ce qui va faciliter au cours des siècles chez les Romains le divorce. Là, chez, au temps des empereurs, que je vous ai décrit dans mon deuxième cours, bah, pour divorcer, c'est simple. Hein, la femme ou le mari quittait la maison. Voilà, le divorce est prononcé. C'était au plus simple possible. Et donc, sous les empereurs, on se marie pas mal de fois. Femmes et hommes, pareil. Si elles en ont assez, elles peuvent rejoindre la maison de leur père, par exemple. Donc, le divorce est prononcé. Voilà, ça va très vite. Voilà. Donc, pour la petite cérémonie, quand même, je voudrais dire quelques mots. Alors, il y a une fête, hein, c'est comme... Même si c'est un acte de la vie privée, c'est un acte privé, et il y a la fête du mariage, le jour du mariage est décidé. Les fiançailles se sont faites bien avant, et les familles se sont réunies pour envisager cette sorte de contrat entre deux personnes. L'âge légal, bon, chez la fille c'est 12 ans, et chez le garçon c'est 14 ans. En sachant que si la fille se mariait bien à l'âge de 12 ans, il n'en était pas de même pour les hommes, ils ne se mariaient pas à l'âge de 14 ans. Parce que quand on est un jeune Romain, eh bien on est sous la dépendance de son père, financière et tout. Donc il faut attendre d'hériter, ça peut être un peu long quelquefois, ou attendre que le père veuille bien qu'il y ait une nouvelle épousée qui arrive dans la maison. Donc, le mariage se fait beaucoup plus tard pour les hommes, pas, même si l'âge légal est de 14 ans. Alors, la famille de la mariée, parce que tout part de la maison de la mariée, organise une petite fête, un jour bien déterminé. La mariée, je vous l'ai dit tout à l'heure, porte une robe simple de femme romaine, avec le voile, le flammeum orange. Qui symbolise le feu en quelque sorte, la couleur du feu, donc les vertus fécondantes, puisqu'elle est appelée à la maternité rapidement. Le repas du midi se passe dans la maison de la jeune femme. On en a appelé, bien sûr, auparavant, on a pris les auspices pour voir si le mariage allait être heureux. On a fait des sacrifices aux dieux, on a appelé la divination. Voilà. Et puis, le mariage va être symbolisé par le cortège. Souvent à pied, bon, chez les riches romains, peut-être en litière, mais souvent à pied, de la maison de la femme à la maison du mari. Puisque la femme va passer in manu mariti dans la main du mari et va quitter sa famille. Hein? Il y a des pleurs, évidemment, qui symbolisent la séparation de la jeune fille avec sa famille. Voilà, le cortège amène à la nouvelle maison. Bon. La phrase rituelle « où tu seras Gaius, je serai Gaïa » doit se prononcer à la maison du mari, en arrivant à la maison du mari. Il y a le soulèvement pour franchir le seuil de la mariée. Alors, il y a plusieurs versions, là, soit par le marié, soit par le cortège. Les amis du marié peuvent aussi soulever la mariée. Voilà. Quand la mariée entre dans la maison, le mari lui remet les clés de la maison, le feu du foyer et l'eau. Ce sont les objets traditionnels. Les clés, le feu et l'eau. La mariée porte une ceinture que le marié doit dénouer. Voilà. Et donc, on en arrive au soir où il faut qu'il y ait la consommation du mariage. Mais je vous rappelle, l'amour conjugal se déroule dans l'obscurité. Donc, on en arrive là. Alors, est-ce qu'il y a chez les Romains l'idée que la mariée doit arriver vierge au mariage? Oui. Mais, comme je vous l'ai mis là, chez les Romains, la chasteté n'est pas considérée comme une vertu. Comme l'avait dit Jean Hayé, quand il a fait la conférence sur l'homosexualité, je me rappelle qu'il nous l'avait très bien expliqué. Pour comprendre leur mentalité, il faut se démettre des 2000 ans des idées de l'Église chrétienne, d'accord ? On n'est pas là. Donc cette idée de castitas, là, qui se retrouve chez les Romains, ce n'est pas du tout une histoire de chasteté. C'est que la femme, elle doit être chaste, en quelque sorte, pour préserver la caste du mari. D'accord ? Ah, comment vous expliquer ça ? Ben, je vais vous expliquer avec une anecdote. J'avais parlé dans mon deuxième cours de l'empereur Auguste, Octave Auguste, qui avait une fille d'un premier mariage, Julie. Puis il y a un monsieur, alors, je ne sais pas s'il est parmi vous, qui était venu me voir à la fin du cours et qui m'avait demandé des détails sur cette fille d'Auguste, Julie, qui avait été exilée par son père et qui était morte de faim dans une île un peu loin de Rome. Bon, j'avais fait des recherches pour lui répondre, mais là, je vais lui répondre, bon, puis s'il n'est pas là. En fait, Julie, donc c'était une fille d'Auguste, je reprends, mais pas de l'impératrice Livie. C'était une fille d'un premier mariage d'Auguste. Puis Auguste a épousé Livie, qui, elle, avait un fils, Tibère, d'un premier mariage. Vous voyez ? Julie, elle était mariée à un noble romain. La fille d'Auguste était mariée, très jeune, à un noble romain. Bon. Puis son père a voulu la marier à son meilleur lieutenant, Agrippa, qui avait son âge. Donc Julie, elle divorce du premier mari. Elle se marie avec Agrippa, deuxième mari. Elle fait trois fils à Agrippa. Elle a Germanicus, Drusus et Gaius. Bon, très bien. Et puis Julie... Agrippa meurt à la guerre. Son père la marie avec qui ? Avec le fils de sa femme, avec Tibère. Et elle va être l'impératrice sous Tibère, elle va être la femme de Tibère. Et Julie a de nombreux amants. Elle est réputée pour être une femme qui fait des frasques pas possibles. Et qu'est-ce qu'elle disait par rapport à la castitas ? Je vais vous dire sa phrase. Elle disait... Quand la cale du navire est pleine, je peux prendre des passagers. Donc, ce que si ça signifie, quand je suis enceinte, je peux très bien avoir tous les amants que je veux. Puisque je préserve, puisque je suis enceinte de mon mari, j'en suis sûre. Voilà, je préserve, vous voyez, la castitas. D'accord ? Qui n'a aucun rapport avec la chasteté. Puisque Julie, alors pourquoi Auguste a exilé sa fille et elle en est morte ? Eh bien parce que, bon alors ça c'est Tite-Livre qui raconte ça, elle avait des amants et puis elle avait tellement provoqué son père qu'elle avait fait venir un amant dans les rostres, là où les rostres c'est un bâtiment du forum romain où il y avait les séances des assemblées. Donc elle avait été prise en flagrant délit là-dedans. Donc son père, putain, exilé. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer le concept de castitas qui n'est pas du tout à rapprocher à notre mot. Voilà. Donc si la fiancée était vierge pour le mariage, tant mieux. Si elle avait eu quelques aventures, il n'y avait pas, comme dans certaines sociétés, vous savez, l'épreuve du drap blanc. Donc, allons prouver la virginité, c'était difficile. Voilà, pour ce cours. Bon, mais là, je suis à... Ah non, je n'ai pas passé sur la dernière forme de mariage. Attendez, j'ai encore une minute. Ah, je n'y arrive pas, ce truc-là. Hop, hop, hop. Alors, le mariage le plus fréquent, c'est sans la main du monsieur, sans la main du mari. Voilà. Parce que vous allez me dire, mais chez le peuple, chez les agriculteurs, chez les paysans, comment ça se passait ? Mais c'était un mariage per usum, ça signifie par usage. C'était une sorte de concubinage, voilà, avec consentement mutuel. Et si la femme était pendant la première année, si la femme était retournée chez son père trois nuits, eh bien le mari n'avait pas la manou. C'était le père qui gardait la main. Puisqu'il faut toujours un tuteur, hein. Chez les Romains, ce sont d'éternels mineurs, les femmes. Donc, il faut quand même un tuteur. Mais bon, la femme n'avait pas l'emprise du mari. Le père avait l'emprise sur la dot également, là, dans le cinéma. Voilà ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui.